Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Alors cette émission n'est pas un délit d'opinion, c'est une émission où... Alors je suis toujours avec Charles, mais nous recevons quelqu'un, nous recevons François Gervais. Bonjour François Gervais.
Bonjour.
Et bonjour Charles, évidemment.
Et bonjour.
Alors pourquoi je vous reçois, c'est notamment pour ce bouquin. Donc, le déraisonnement climatique aux éditions L'Artilleur. Donc, climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine. Alors, je vais vous présenter tout simplement avec la quatrième de couverture hein, pour que les auditeurs sachent qui vous êtes. Donc, physicien, professeur émérite à l'université de Tours. Vous avez été directeur d'un laboratoire du CNRS, expert reviewer des rapports AR5 et AR6 du GIEC. Donc, vous allez nous expliquer aussi quels sont ces rapports. Ancien conseiller scientifique du pôle de compétitivité sciences et systèmes de l'énergie électrique. Vous avez été médaillé du CNRS en thermodynamique et lauréat du prix Yvan Péchès de l'Académie des sciences. Donc voilà, vous avez écrit ce livre dans lequel vous dites, en gros, vous êtes un petit peu à l'opposé de ce qu'on entend régulièrement quant au réchauffement climatique, c'est-à-dire que voilà, on produit du carbone, du CO2, que il faut absolument arrêter ça, que même certains voudraient recourir à la décroissance pour revenir à un monde beaucoup plus naturel et sans pollution et sans réchauffement climatique. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est relatif à une rumeur qui court en ce moment vis-à-vis d'une loi qui voudrait en quelque sorte interdire les discours jugés comme climato-sceptiques. Alors, je voudrais d'abord vous poser cette question. Est-ce que ce livre, peut-être après la publication de cette loi, sera encore légal ?
C'est une bonne question. Ce livre ne fait que reprendre de façon un peu vulgarisée des travaux que j'ai publiés dans des revues internationales à comité de lecture. C'est-à-dire en faisant mon boulot de scientifique, de physicien. Alors, est-ce qu'on va interdire de publier dans des revues internationales à comité de lecture ? Non, c'est vraiment une question, ça va loin. Si cette censure, car c'est le mot, était appliquée, ça veut dire qu'un scientifique n'a plus le droit de publier ses travaux. C'est grave. Ces livres ne font que reprendre ce que j'ai publié dans des revues internationales, comité de lecture. La dernière, c'était Science of Climate Change, Climate, Earth Science Reviews et l'International Journal of Modern Physics. Donc, voilà, c'est en ces termes. C'est pas une opinion, c'est simplement la vulgarisation en français de quelque chose qui est un petit peu difficile à lire, à savoir une publication dans une revue internationale à comité de lecture.
Mmh. Et alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu justement votre opinion sur toutes ces questions vis-à-vis du climat. On va partir vraiment de la base de la base. C'est-à-dire, est-ce que selon vous, il y a un réchauffement climatique ou pas ?
Oui.
Est-ce qu'il est aussi important qu'on le dit très souvent ?
Alors,
ou est-ce qu'il est
dans
plus,
le livre,
plus...
il y a une figure qui montre les relevés de température du plus ancien thermomètre du monde.
Oui, tout à fait.
Le thermomètre Central England, qui depuis 360 ans, au moment où il a été inventé, il est là, et il mesure l'évolution de la température. Oui, il y a eu un réchauffement depuis 360 ans. C'est un fait. Pourquoi il y a eu ce réchauffement ? C'est parce qu'à l'époque, on a inventé trois instruments. Les scientifiques ont inventé trois instruments remarquables. Le thermomètre, et pas avant. Hein. Le baromètre, très important, pour y revenir, et la lunette de Galilée. La lunette de Galilée qui permettait en particulier d'observer les taches solaires. Or, il y a 360 ans, il y a eu ce qu'on appelle le minimum de Mahondor, il n'y avait plus de taches solaires. Et effectivement, il y a eu un refroidissement de la Terre important, cause de mauvaises récoltes, de famine, enfin c'était assez grave.
Du règne de Louis XIV à la fin. Oui.
Tout à fait, c'est ça, à la fin du règne de Louis XIV. Et puis depuis, progressivement, alors à l'époque, les glaciers de montagne par exemple avaient bien avancé, bien sûr. Depuis, ils ont tendance à régresser parce qu'entre temps, la Terre se réchauffe après ce minimum de Mahondor. Donc oui, il y a un réchauffement, bien sûr.
Mmh. Et est-ce que ce réchauffement, selon vous, il n'a absolument aucun rapport, de près ou de loin, avec l'activité humaine, avec l'émission de gaz à effet de serre, le CO2, tout ça ?
Si, il en a. J'ai un chapitre entier pour analyser ce que dit l'instrument de mesure que je pratique depuis maintenant 55 ans, qui s'appelle la spectrométrie infrarouge.
Mmh, oui.
Et si on regarde le spectre infrarouge de l'atmosphère, on peut quantifier le rôle de tous les gaz à effet de serre. Alors, je rappelle que le principal, c'est la vapeur d'eau, de très loin.
Mmh.
Et le deuxième, c'est effectivement le CO2.
Mais ça représente 0,005%, je ne sais plus combien.
C'est ça, 0,04%, mais ça pourra peut-être monter jusqu'à 0,05%, oui, c'est vrai, % de l'atmosphère. Mais il n'empêche que ça a un effet. Et le spectre infrarouge le mesure, cet effet. Et cet effet, alors, si on regarde maintenant la période récente, depuis 1945, début de l'accélération des émissions de CO2. Avant, c'était trois fois rien, il n'y avait que le charbon qui jouait. Puis après, il y a eu tous les autres combustibles fossiles qui ont effectivement provoqué une accélération des émissions de CO2. Donc depuis 1945, quand on prend tous les relevés de tous les instituts qui font des relevés, c'est 0,4 degrés depuis 1945. Mais, je le souligne dans le bouquin quand même, entre 1910 et 1945, l'augmentation de température a été de 0,6 degrés. Donc ça vous indique que, bien sûr, il y a une part qui peut être anthropique, mais il y a aussi une part qui peut être naturelle.
Mais alors, c'est pas faire la différence.
Si.
On peut mesurer.
Enfin, à partir du spectre infrarouge du CO2, on peut voir quelle est la contribution des émissions de CO2 depuis 1945. Je la chiffre dans le bouquin, je veux dire, on peut en faire un calcul, c'est 0,3 degrés, oui. Oui, il y a un effet, je nie absolument pas qu'il y a un effet qui s'ajoute à la variabilité naturelle.
Mmh. Mais alors, du coup, vous n'êtes pas vraiment climato-sceptique si vous pensez ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas exactement dans ce qu'on raconte d'habitude, surtout parmi ceux qui pensent qu'il n'y a que l'activité humaine qui cause le réchauffement climatique, mais finalement, c'est une position assez raisonnable de dire, voilà, il y a un réchauffement naturel qui est cyclique, ce sur quoi s'ajoutent effectivement les effets potentiels de l'activité humaine.
Ouais, tout à fait. Alors, ce mot climato-sceptique m'amuse énormément. Parce que une vertu cardinale pour un scientifique, c'est d'être sceptique, justement. Donc, c'est nous faire honneur de dire qu'on est climato-sceptique. Alors maintenant, la tendance, c'est plutôt, j'ai vu sur ma page Wikipédia, climato-négationniste. Alors, j'aime pas du tout.
Oui, parce que ça, c'est pas la même chose.
Non, mais non.
Parce négationniste, c'est un peu autre chose.
Ça se rapporte à un fait historique.
Ouais.
Alors que là, c'est les projections de modèles informatiques de climat d'ici la fin du siècle. C'est absolument pas un fait historique.
Bien sûr que non.
Mais alors, ça a quel effet sur le climat? Parce qu'on se dit, bon, une augmentation de 0,3 ou 0,4 degrés Celsius, ça paraît pas grand-chose comme ça, parce que quand on vous dit que la température va passer de 21 degrés à 21,4, bon, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait Chirac, mais après, derrière, peut y avoir des plus grandes conséquences sur les températures plus extrêmes, c'est-à-dire qu'on va atteindre plus facilement les 40 degrés, peut-être plus souvent. Est-ce que ça a pas un plus gros effets que ce qu'on pense?
Excellente question. Savez-vous quel est l'écart de température du midi de la France et du nord de la France?
Oh bah ça peut
6 ou 7 degrés.
15,
oui, 6 degrés, oui, tout à fait. Et l'écart de température entre deux métropoles prospères comme Oslo, capitale de la Norvège, et Singapour, 22 degrés. Alors bon, je veux dire, 1 degré, 1,5 degré... Pourquoi mettre ça en avant alors que tout le monde se développe très bien avec des écarts de température beaucoup plus grands?
Alors, ce que dit Kounin dans son bouquin, il dit quelque chose d'intéressant, c'est que quand on regarde les températures, c'est surtout les températures les plus basses qui sont remontées, d'après ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'autrefois, il faisait moins 40, moins 50 dans certains coins du Canada. Maintenant, il fait qu'au moins 30. Ce qui fait que la température moyenne est montée, mais c'est plutôt par une augmentation de la température la plus basse, quoi. Et les températures les plus hautes augmentent un peu moins.
Il a sans doute raison. J'ai pas spécialement regardé cet aspect-là. Mais oui, il a sans doute. Il insiste sur l'incertitude.
Voilà, c'est ça.
Parce que, en réalité, même, vous l'avez souligné, j'étais expert reviewer des rapports R5, ils m'ont repris, ils m'ont réaccrédité pour le rapport à R6. Bon, là, je leur ai envoyé 45 paragraphes de commentaires, de recommandations, de critiques. Ça ne sert à rien, hein, entre parenthèses, mais peu importe, ils ne sont pas obligés de les suivre.
Est-ce qu'ils sont obligés de les publier ?
Oui. Il les publie.
Il les publie.
Ah oui, il les publie. Bon, enfin, qui va lire ça ? Déjà, personne ne lit le rapport du GIEC. Enfin, je veux dire, là, il y en a.
Girondeau qui l'a dit.
Oui,
Girondeau dit qu'il l'a lu.
Oui, oui, il a raison.
Je ne sais pas si je le crois.
si. J'échange très souvent avec Christian Girondeau au téléphone ou par mail. Si, il le regarde de très près.
Moi, je suis bien attentif.
Moi, je l'ai regardé aussi beaucoup, puisque chaque fois, c'est un mois de travail hein, pour faire un rapport sur. Alors, il y a un premier rapport, puis un deuxième rapport. C'est un vrai travail. Hein.
Oui, je veux bien le croire.
Bon, donc...
Donc, ce que vous dites, c'est que dans le fond, il y a un petit réchauffement, il n'y a pas de quoi faire une pendule. Et donc, là où, sans doute, vous devez vous écarter du consensus, c'est dans les solutions à apporter. Parce que là, j'ai l'impression que c'est là où il y a une grosse différence.
C'est vrai que le bandeau rajouté par mon éditeur, le grand déni énergétique, donne un volet complémentaire, effectivement, à cette analyse purement climatique, on va dire. C'est vrai.
Donc, parce que il y a... Moi, ce qui m'inquiète en tant qu'économiste ou tout ça, si vous voulez, c'est qu'il y a une adéquation quasiment parfaite entre la consommation d'énergie et le niveau de vie.
Tout à fait.
C'est du 1, si j'ose dire. Il n'y a pas de... Et donc, si d'un seul coup, on fait baisser la quantité d'énergie qu'on fournit aux gens, le niveau de vie va baisser ipso facto et de façon catastrophique.
Tout à fait. Et en particulier dans les pays en voie de développement, là, ça serait vraiment une catastrophe.
Ce serait une catastrophe.
Ils ne peuvent pas se le permettre.
Ils ne peuvent pas se le permettre. Et d'ailleurs, ils n'ont pas du tout l'intention de se le permettre. Ils ont l'intention d'envoyer tout ça par-dessus les moulins. Donc, la vraie question, c'est on s'est embarqué sur des espèces de solutions qui, à l'évidence, exigent un capital monstrueux, mais à la marge, n'ont rien changé. Si vous regardez, par exemple, ce que j'appelle les miroirs magiques et les moulins à vent, on est resté à 89% de fossiles depuis quelques
temps. Bien sûr. Et ce matin,
rien n'a changé.
Je suis venu en TGV de Tours, toutes les éoliennes étaient arrêtées parce qu'il n'y avait pas de vent, de toute façon.
Oui, elles s'arrêtent s'il n'y a pas de vent ou s'il y en a trop. Alors,
oui, exactement. Donc, j'observe dans les deux cas, ça marche dans les deux cas, effectivement.
Donc on a l'impression que il y a une espèce de partie de la population qui s'est emparée du débat et qui a dit « il nous faut des solutions pour tout de suite ». Mais quand vous raisonnez sur l'énergie, il faut raisonner à 50 ou à 100 ans. C'est-à-dire que les délais entre les mesures que vous prenez
bien sûr.
Et si vous voulez, un programme énergétique, c'est 30 ans, 50 ans, 70 ans.
Bien sûr.
Et là, pour l'instant, on essaie de nous expliquer que l'année prochaine, on va avoir la solution. Mais c'est n'importe quoi.
Ce d'autant plus que, en matière de ressources fossiles, on en a pour 100 ans, à peu près. Enfin, les réserves connues. Hein.
Oui, bien sûr.
Oui, connues, parce que là, on vient de découvrir, par exemple, une énorme réserve aux États-Unis.
On en a pour 100 ans. Donc, il n'y a pas une urgence de ce point de vue-là. Là, ça pourrait être effectivement une bonne raison.
Oui.
Mais ça n'est pas le cas.
Non. Non, et puis les réserves connues, moi, comme je vous l'ai dit, je suis un vieux de la vieille. Je me souviens de la précédente crise énergétique des années 70, où on m'expliquait que le monde consommait 50 millions de barils par jour, qu'il y en avait pour 7 ou 8 ans, et que dans 7 ou 8 ans, on allait tous mourir de froid, de faim, et les pieds dans la neige en Santiago. Mais aujourd'hui, on consomme 100 millions, et il y en a pour 15 ou 20 ans. Et donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas d'énergie si le prix du pétrole est à 100 $, mais s'il est à 300, il y en a plein, quoi. C'est toujours la même chose, c'est une question de prix.
Donc, et de toute façon, 100 $, ça met le baril à quoi, 50 centimes. Enfin, c'est trois fois rien.
Mmh. C'est ça. Donc vraiment.
C'est pas plus cher que de l'eau minérale en bouteille plastique.
Enfin. Non. Et ce qui est d'étonnant, donc, c'est cette espèce de zèle religieux qui semble s'être emparé d'une partie de la population et on se demande s'ils veulent pas nous punir de je ne sais quel crime affreux qu'on aurait commis.
Vous avez raison avec le mot religieux. C'est un mot qu'utilise également Christian Girondeau. Il y a l'effet d'une religion, oui.
C'est d'une religion, c'est-à-dire qu'on a commis un gros péché, il faut demander pardon à la déesse Gaïa, Et peut-être, si on a les bons intermédiaires, on sera pardonné, on ne mourra pas tout de suite, quoi.
Et on peut acheter des indulgences plénières.
Oui, c'est bien ça aussi.
Oui. Peut-être avec quelques sacrifices humains, via l'euthanasie, c'est possible de donner aussi quelque chose.
D'ailleurs.
Bon, enfin, pour revenir un petit peu sur votre travail, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est justement les rapports AR5 et AR6 du GIEC ? Parce que ça fait un peu technique comme ça, mais oui. Ça ne doit pas être bien compliqué. Alors,
d'abord, je signale une chose qui n'est pas sans importance, c'est que les trois présidents successifs du GIEC, le troisième a été nommé au mois de juillet, aucun n'est climatologue. Quand vous regardez le parcours...
Ils sont philosophes.
Le premier était ingénieur des chemins de fer, le second était économiste.
C'est les pires.
C'est pas moi qui le dis. Hein. Et le troisième, en fait, c'est un lobbyiste des énergies intermittentes. Bon, ils ont plein de qualités, certainement, la question n'est pas là. Hein. Mais aucun n'est ce qu'on appelle climatologue. Moi, je revendique, je suis physicien, mais je revendique l'être quand même un petit peu, vu que j'ai publié 4 articles dans des revues de climatologie. Bon. Alors, peu importe d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Je soupçonne, ça n'est qu'un soupçon, mais un soupçon qui est de plus en plus étayé, que dans les gènes du GIEC, il y avait déjà l'idée de cette instauration, en fait, cette euthanasie du volet énergétique de l'économie.
C'est ce que dit Giraudot, en tout cas.
Tout à fait. Mais on échange souvent, mais on est complètement d'accord là-dessus. Il y avait vraiment la volonté d'euthanasier le volet énergétique de l'économie. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ce volet énergétique lié aux énergies fossiles, c'est 80%.
Voilà, 82, oui.
Donc on va pas, ça ne va pas se faire comme ça... Oui. D'un claquement de doigts, hein. C'est pas...
Et la consommation de charbon l'an dernier dans le monde a atteint un pic historique qu'elle n'avait jamais atteint.
La moitié consommée par la Chine.
Évidemment.
La moitié consommée par la Chine. Ce qui veut dire que de toute façon, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, en Europe ou, a fortiori, en France, qui représente 1% des émissions mondiales, ça changera rien. Ça changera rien, mais attention, le rapport Pisani-Ferry... J'ai écouté Pisani-Ferry hier sur la 5, là.
Il ne faut pas.
Il n'avait pas l'air très à l'aise, mais il prévoit quand même de dépenser 67 milliards par an. 67 milliards par an.
Dont on n'a pas le premier sou.
Exactement, puisqu'on a un déficit budgétaire de 140 milliards. Bon, 139,5, je crois.
Oui, mais on va emprunter 285.
Oui, voilà. Donc voilà la situation.
67 de plus ou de moins finalement.
On est vraiment dans une absurdité. Pour faire quelque chose qui n'aura aucun impact, on va vers la ruine, c'est le sous-titre du bouquin.
Mais alors, par exemple, si on compare le mix énergétique français et le mix énergétique allemand, on constate que la France produit une énergie beaucoup plus propre, notamment grâce à ses centrales nucléaires.
Tout à fait.
Est-ce que c'est pas une bonne chose quand même d'avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre pour la même quantité d'énergie produite ?
On est les meilleurs de la classe. Il y a un petit tableau dans le bouquin qui montre les émissions pays par pays, les principaux émetteurs, puis la France, que pour principal émetteur, mais ça fait rien, et qui divise les émissions de chacun par le PIB. C'est formidable. La France, c'est le meilleur. Donc, on est déjà le meilleur. Ce qu'on fera ou qu'on fera pas ne changera absolument rien parce que ceux qui sont les maîtres de l'histoire, ben c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les États-Unis.
Et alors, est-ce que vous ne croyez pas que ça vient de quelque chose qui a... Nous avons, comme tout le monde le sait, les meilleurs fonctionnaires du monde. Et que cette classe de meilleurs fonctionnaires du monde s'est mis dans la tête qu'il fallait créer un gouvernement d'abord européen, ensuite un gouvernement mondial. Et est-ce que c'est pas une façon pour eux d'arriver au pouvoir? Dans le fond, ce qui se passe en France, ils en ont rien à foutre. Mais est-ce que c'est pas pour eux une façon de préparer ce gouvernement mondial qui serait notre bonheur à tous?
Alors, j'ai deux réponses à votre question. La première, c'est dites pas trop de mal des fonctionnaires. J'étais professeur des universités.
Ben, c'est autre chose, un professeur, donc, c'est autre chose.
D'accord. Merci. Quant à la deuxième question, oui, on peut le soupçonner.
Parce que vous écoutez, il y a un type, si vous voulez, qui s'est toujours trompé sur tout, qui s'appelle Attali, mais c'est son leitmotiv. Il y a deux choses, c'était l'euthanasie de l'énergie, bien sûr, il n'y en avait pas assez, et puis l'euthanasie des vieux.
Mais l'alarmiste en chef, c'est le secrétaire général des Nations Unies.
Oui, hein. Qui est incroyable, celui-là, qui a parlé de « on allait griller ».
Ah non, non, c'est l'ébullition, maintenant. Il faudrait lui dire quand même que l'eau ne bout pas à 15 degrés.
Alors, justement, par rapport à ça, je rebondis sur l'ONU, parce que ça me fait penser notamment à une étude alors d'un cercle de scientifiques ou pseudo-scientifiques, je sais plus exactement, qui était sorti en 1989, qui nous disait voilà, si d'ici 10 ans on n'arrive pas à réduire absolument nos émissions de gaz à effet de serre au niveau de la planète, à l'horizon de l'an 2000, New York sera sous l'eau. Bon, on est en 2023, bientôt 2024.
Ah, mais New York est sous l'eau.
Mais alors,
vous avez vu ce qui est tombé la semaine dernière?
Là, effectivement, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est pas. Je crois que là, c'est juste la pluie.
Ils n'avaient pas précisé le méthode.
Il y a eu peut-être une intervention de la part de Gaïa qui s'est. Bon, voilà, c'est possible. Mais enfin, bon, là, ça va quand même
s'éviter. Gaïa est très facétieuse.
Voilà, elle est très facétieuse, surtout contre les Américains. Du coup, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de toutes ces prédictions qui ne se sont pas réalisées, parce que notamment, je pense notamment à l'élévation du niveau de la mer, parce que là, c'est quand même un sujet sur lequel je vous rejoins parfaitement. C'est que nulle part, on a vu effectivement l'élévation du niveau de la mer depuis 50 ans, 100 ans, ou même 150 ans.
Si, il y a une élévation du niveau de la mer,
extrêmement faible, quoi.
Par les marégraphes, et comme le soulignait mon collègue Nick Saxon-Morner, qui nous a quittés malheureusement, et qui connaissait les océans mieux que Neptune lui-même. C'était vraiment, il a publié 650 articles sur les océans dans des revues internationales à comité de lecture. Ben Niklas, comme on l'appelait familièrement, c'est un millimètre par an.
Voilà.
Et effectivement, c'est ce que mesurent les deux, pas les margraves du GIEC. Ils en ont sélectionné 450. Mais si on prend les 2150 marégraphe du monde, c'est effectivement 1,04 mm par an.
Mais en principe, on doit pouvoir mesurer ça aussi avec des satellites, sans difficulté. On doit avoir des tas de façons de mesurer
non,
ça.
Non, c'est très difficile.
C'est difficile.
Je veux dire, les satellites qui mesurent la hausse du niveau des océans, on reconnaît une marge d'incertitude de 3 à 4 cm.
Ah oui.
Or, le premier satellite TOPEX, puis JASON 1, JASON 2, JASON 3, à chaque fois mesuré 2 ou 3 cm. Autrement dit, la marge d'incertitude était égale à la mesure.
Oui.
C'est pour ça que je fais davantage confiance aux marégraphes, parce que d'une part, ils mesurent depuis beaucoup plus longtemps que les satellites. Les satellites, c'est plus récent. Et on a des données, comme à Brest, à Marseille, on a des données depuis 200 ans.
Oui, et on le voit ça aussi assez bien parfois, quand on prend des vieilles photos des ports, on voit la marée la plus haute qui a été atteinte, et on voit si on a été plus haut ou pas, donc c'est un peu la même idée. Quoi.
Non, non, tout à fait, et là-dessus, on a des données qui montrent que oui, ça monte, mais pourquoi ça monte? C'est à cause des cycles de Milankovitch. Les cycles de Milankovitch, tous les 100 000 ans, il y a un pic de chaleur et après une glaciation. Et un pic de chaleur et après une... Ça, c'est lié aux différences de paramètres orbitaux de la Terre, qui n'ont rien à voir avec l'activité humaine,
une
bien
évidemment. Qui passe oui, tout à fait. Près ou loin du Soleil.
Voilà. Donc, à partir de là, le dernier âge glaciaire s'est terminé il y a 15 000 ans. 12 000, 15 000 ans, et une quantité de glace considérable qui a fondu, et les eaux sont montées de 120 mètres. Mmh. C'est récent, c'était il y a 12, 15 000 ans.
C'est peut-être et le déluge,
depuis...
non ?
Pardon ?
C'est peut-être le déluge.
Et
mais
depuis...
de 120 mètres.
Et depuis... Non, non, mais justement, c'est énorme. Et depuis, effectivement, la température est plus élevée que dans la glaciation précédente, ça va de soi, hein, et le niveau des mers est monté. Et ce qu'on observe, selon moi, mais ça paraît collé, hein. La lente continuation de l'augmentation, c'est juste la finale de cette augmentation de 120 mètres qui a beaucoup ralenti il y a 7 000 ans, mais qui continue quand même un petit peu lentement.
Mmh. Mais alors, il y a quand même des gens qui parlent assez souvent de réchauffement climatique, enfin sur toutes ses conséquences, autres que les bobos super écolos de la France insoumise, c'est les agriculteurs. Et j'y pense parce que en quelques années seulement, ce qui représente quand même pas beaucoup, il y en a beaucoup d'entre eux en France qui sont mis à des agricultures qui nécessitent moins d'eau, qui nécessitent peut-être plus de soleil, qui peut se faire normalement sous des latitudes quand même plus chaudes, voire même plus arides. Est-ce que on va pas aussi devoir se préparer à des changements comme ça sur la manière dont on produit tout un tas de trucs?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que effectivement nous en France, et même si la France ne représente qu'un millième de la superficie de la planète, comme c'est là où on est, bien évidemment on s'en soucie davantage, c'est normal. Dans les périodes chaudes, par exemple l'été dernier, j'ai regardé les mois par mois, sur toute la surface de la Terre, les périodes qui sont au-dessus des moyennes de saison et celles qui sont en dessous des moyennes de saison. C'est vrai que l'année dernière, on a eu un été très chaud avec une sécheresse, c'est indéniable. Mais dans le même temps, l'hémisphère sud a connu des températures nettement en dessous des moyennes de saison. Donc,
ça se rééquilibre en quelque sorte.
Alors, nos anciens, puisque vous mentionnez les agriculteurs, finalement, à l'époque, on ne donnait pas le bulletin à la météo. Hein. Donc, ils regardaient deux choses. Le baromètre, parce que c'est ça, finalement, la météo, c'est lié essentiellement au baromètre, qui va indiquer les différences de pression, ces différences de pression qui sont parfaitement chaotiques, aléatoires, imprévisibles, mais qui vont fixer la direction des vents. En France, c'est assez simple. Si le vent vient du nord, il fait plus froid. S'il vient du sud, il fait plus chaud. S'il vient de l'ouest, il pleut. C'est pas très compliqué. Mais eux, donc, ils regardaient le baromètre et la girouette au sommet du clocher du village qui donnait la direction du vent. C'est ça, la météo. Et c'est en fonction de ça qu'ils disaient, il va falloir vendanger ou va falloir moissonner parce que là, ça va changer et ça va pas être bon. Voilà, ça, c'est effectivement des choses qu'ils regardaient. De là à dire qu'il faut planter la Syrah dans le sud de l'Angleterre, je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui marche. Mais bon, d'abord parce que il faut 30 ans pour l'enracinement de la vigne pour commencer à faire du bon vin. Donc déjà, ça c'est une première bonne raison. Mais la deuxième, c'est que on n'est absolument pas certain que ça va continuer.
Mais on a déjà eu une période comme ça, aux alentours de 1250, il y avait eu un optimum.
Tout à fait, l'optimum médiéval.
Médiéval, oui. Et oui. Où il y avait des vignes au Groenland. Quoi.
Effectivement.
Et donc, puis ça, on s'est recaillé à l'époque de Louis XIV, oui. Puis c'est remonté. C'est pour ça que quand les gens. J'ai lu un article justement, parce que ce sont des choses qui m'intéressent, mais j'ai lu un article qui disait quand les gens vous disent que la température est montée, c'était un spécialiste anglais qui disait ça, demandez-leur à partir de quand ? Quelle est leur date de départ ? Parce que la date de départ détermine beaucoup si vous prenez 1700...
La température est montée là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Hein.
Mais il dit, si vous mesurez à partir de 1890 ou à partir de 1750, vous pouvez avoir des résultats complètement différents, oui. Quoi, sur la tendance à long terme.
C'est intéressant parce que dans l'histoire, l'optimum médiéval, l'optimum minéen, l'optimum... il y en a eu plusieurs, on appelle ça un optimum. C'est parce que entre les deux, c'est ce qu'on appelle les âges sombres quand il fait plus froid. Parce que le froid, même aujourd'hui, hein, les études publiées par le Lancet montrent que le froid, c'est le tueur.
C'est le tueur absolu.
On tue 10 fois plus d'êtres... Enfin, je veux dire, ça diminue l'espérance de vie. Et ça tue 10 fois plus que le chaud, aujourd'hui.
Et à leur époque.
Oui.
Parce qu'ici, il y avait 2 années froides sans récolte, et ben vous aviez, il y avait quand même une personne qui était morte pendant les grandes famines à la fin du règne de Louis XIV, je sais pas, quelque chose comme ça. Plusieurs millions de Français, c'était mais ils faisaient froid.
Si on cumule ça en plus aux maladies, c'est sûr qu'on ne sera pas pour le mieux.
La malnutrition.
Et j'ai un petit chapitre dans le bouquin là qui raconte la chasse aux sorcières. Les chasses aux sorcières se trouvaient dans les périodes où il faisait froid. Et le pape, c'était Innocent VIII. Qui avait fait une encyclique pour dire « Oui, il faut chasser les sorcières qui changent le temps !» C'est formidable, parce que quand on compare au discours d'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de faire des rapprochements.
Ben, vous avez aussi le truc de Galilée, ça vous rappelle
oui,
que
bien sûr.
Empêcher les savants de parler, c'est peut-être quelque chose dont on a parlé au début.
Oui, là, tout à fait.
C'est, tout le monde est en train de prononcer des exclusions, et des... mais personne ne fait rappel que c'était ce qu'on avait déjà fait avec Galilée. Quoi. C'est assez curieux.
Oui.
Mais c'est...
Donc. Surtout que, comment dire, cette exclusion, on ne sait pas encore si la loi verra le jour ou pas, mais si elle a lieu, est-ce que ce ne serait pas, en plus de ça, vraiment contre-productif ? C'est-à-dire que il y a un peu un côté, on veut absolument vous empêcher de dire ou de penser certaines choses. Par conséquent, est-ce que ça laisse pas en fait une ouverture de la voie juste pour des gens qui nient absolument tout en bloc sur le réchauffement climatique ? Il n'y a pas de réchauffement et l'activité humaine, on s'en fiche absolument. On peut brûler autant de charbon qu'on veut, ça ne fera absolument rien. Est-ce que ça laisse pas libre cours justement à toutes ces idées-là ?
Ouais. Gandhi disait, au début, il vous ignore, après, il se moque de vous, après, il vous attaque, et après, vous gagnez.
Si vous avez survécu.
Oui.
Si vous avez survécu.
Là, c'est dans la phase d'attaque.
Oui. Mais moi, j'ai une vieille histoire comme ça. Quand j'étais jeune, j'avais un de mes amis roumains, on discutait, et il m'avait dit, il y a quelqu'un de très bien en France... C'est le général Salan. Alors, ça doit vous dire quelque chose,
oui,
le général Salan,
oui.
Grande période de l'OS, etc. Alors, je dis, c'est une idée intéressante, mais pourquoi le général Salan ? Parce que la radio roumaine en dit du mal tout le temps. Et donc, je crois qu'on arrive maintenant, il y a des gens qui relisent les rapports du GIEC, et ils pensent le contraire, parce qu'ils pensent que penser le contraire, c'est la façon d'avoir raison. Mais ce que je me tue à dire aux gens, c'est qu'en termes logiques, il n'y a qu'une façon d'avoir raison, mais il peut y avoir 25 façons d'avoir tort. Donc le contraire d'une erreur
n'est pas
automatiquement la vérité, ça peut être une autre erreur. Donc il faut continuer à travailler, continuer à se renseigner pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais pas simplement penser que les crétins qui nous empêchent de parler, il faut dire le contraire pour avoir raison, parce que c'est pas vrai.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'important, surtout qui s'est amplifié beaucoup avec le Covid, l'histoire de vaccins, etc. C'est-à-dire que bon, il y avait en quelque sorte un discours officiel qui était convenu de suivre. Et ça a laissé libre cours, en dehors de ce discours-là, que aux énormes tarés qui nous racontaient que on essaye de nous inoculer une puce et que demain à 20h52 on va tous mourir parce que le gouvernement américain va nous piloter à distance, j'en sais rien encore. Donc effectivement, moi je suis pas du tout partisan de ce genre de loi parce que ça va laisser libre cours que aux énormes tarés quoi. Et en fait ça va être absolument impossible de discuter de ce sujet absolument calmement. D'ailleurs, vous le racontiez, je crois que c'était chez Berkoff,
oui.
C'est-à-dire que vous êtes absolument interdit de télévision sur le service public.
Oui.
On ne vous recevra jamais là-bas. Alors que moi,
plus maintenant, je l'ai été invité, mais plus maintenant.
Ouais. Mais moi,
depuis
je trouverais ça intéressant.
Depuis le début de cette année, nous sommes interdits sur les chaînes du service public payées par nos impôts quand même. C'est quand même un peu énorme. Hein.
Non, mais ça veut dire une seule chose, c'est qu'il faut supprimer ces chaînes du service public. Si vous voulez. Il n'y a aucune raison que dans le monde actuel, il y ait une information d'État. Ça n'a pas lieu d'être. L'information de qualité, c'est l'information contradictoire. Donc il faut se débarrasser de tout ça et faire quelques économies budgétaires.
Mais la science n'existe que par le débat scientifique. S'il n'y a pas de débat scientifique, la science...
C'est pour ça que ça me tue quand je dis que la science, maintenant la science est d'accord, enfin la science ne peut pas s'arrêter, la science ne peut pas être d'accord, c'est pas possible, c'est qu'antinamique. La science c'est un processus, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de départ, c'est un processus. Quoi. C'est...
La science fait un grand pas quand un nouveau paradigme
émerge
et enlève le consensus précédent. C'est comme ça que ça marche, la science.
Et si le pouvoir public s'en occupe, on fait un grand pas, mais en arrière.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même des consensus scientifiques ? C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire c'est la vérité absolue parce que c'est le consensus, mais il s'agit de dire on va penser ça un petit peu par défaut parce que la plupart des scientifiques, l'immense majorité des scientifiques sont d'accord là-dessus, et ensuite on garde d'autres idées dans
c'est
un coin de la tête au cas où.
La science ne marche pas par consensus. Par définition, elle ne marche jamais par consensus. Elle marche par démonstration. Et c'est en l'absence de démonstration qu'on met en avant, politiquement, le consensus. Mais ce n'est pas de la science.
Et alors, pour revenir un petit peu sur la question de l'énergie, pourquoi, selon vous, on veut absolument nous faire accepter toutes les inepties énergétiques à base de, ben, comme dit Charles à chaque fois, de moulins à vent et de miroirs magiques?
Faut leur demander. Moi, j'ai pas la réponse.
Moi, j'ai la réponse.
Mais
moi,
c'est la un réponse. Gros business, c'est évident.
Voilà, c'est que, bah, voilà, n'oubliez pas qu'on a dépensé quelque chose comme 7000 milliards de dollars dans ces moulins à vent, etc., depuis 20 ans. Et que ça n'a rien fait du tout, mais par contre, ça fait des fortunes considérables.
Pour certains.
Il y a certains qui s'en sont mis plein les fouilles. Donc, c'est purement et simplement de la corruption.
Et surtout,
c'est une corruption en prenant comme prétexte la science. C'est quand même un peu comme les vaccins du Covid. Il n'y a qu'à regarder les bénéfices de Merck et on se rend compte de à qui le crime profite. Quoi. Je veux dire, quand vous voyez que des gens gagnent du pognon gros comme eux, sans prendre aucun risque parce que c'est des commandes étatiques, vous savez que le crime est là.
Et le nucléaire, ça fait pas du pognon aussi, parce qu'on a envie de se dire, le nucléaire,
mais
c'est...
ça produit de l'électricité.
Ah oui, mais justement.
À moindre coût et sans émettre de...
Sans émettre
non, non, mais le nucléaire, quand on l'a fait, la dépendance énergétique aux énergies fossiles de la France a baissé. Tandis que là, vous avez dépensé des milliards de dollars, et ça a monté la dépendance énergétique aux énergies fossiles. Donc ça ne marche pas.
On le voit parfaitement en Allemagne, où en Allemagne,
ils sont mis à brûler du charbon.
Oui.
Et le pire, c'est qu'ils brûlent du charbon quand les vents arrivent de l'Est, il fait mauvais à Paris, les particules tombent, et ils interdisent les voitures à Paris.
Ouais.
Pire, ils brûlent de la lignite.
Ils brûlent de la lignite, c'est le pire de tout.
C'est le pire.
C'est le pire de tout. Parce qu'on dit du mal des Chinois, mais ils en ouvrent 200 dans la charbon par semaine ou je sais pas quoi, mais ils utilisent des processus qui font que ces centrales sont à peu près un dixième de la pollution qu'elles faisaient il y a 40 ans. Donc il y a quand même quelques progrès qui sont faits là. Donc ça veut dire qu'ils ouvrent pas des centrales comme il y a 40 ans. Ils en ouvrent pas mal, mais les Indiens pareil. Donc et j'ai travaillé avec des gens aussi qui m'expliquaient que ce qu'on pourrait faire, c'était faire de l'énergie nucléaire à partir duquel on montait des processus chimiques pour recapturer le CO2 et à ce moment-là le retransformer à partir de l'hydrogène en azote ou je sais pas quoi, et ça, on rebrûlait le CO2, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser l'énergie nucléaire pour sortir le CO2 excédentaire, le remettre dans les bagnoles, on le rebrûlait comme un carburant, et que c'était parfaitement rentable. Mm-hmm. Ça se faisait à 2 euros le relais.
Oui, mais c'est pas une bonne idée de capturer le CO2.
Mais non, parce qu'il y a
le CO2, un tiers de nos émissions profite à la végétation. Un tiers de nos émissions, c'est énorme. En 33 ans, on a vu, par les mesures satellites, une augmentation de la végétation dans le monde, oui, qui profite en particulier aux plantes nutritives. Je rappelle quand même qu'en 50 ans, la population de la Terre a doublé. Il faut quand même nourrir tout le monde. Hein. Et que ce tiers de nos émissions durant seulement 33 ans a augmenté, c'est facile de faire le calcul, hein, a augmenté la biomasse de 24%. C'est considérable. Il faut laisser faire le CO2. De toute façon, quand nous expirons, dans notre haleine, il y a 20 fois plus de CO2 que dans l'atmosphère. Dans un sous-marin qui va croiser longuement en plongée, on admet à peu près 25 fois plus de CO2 que dans l'atmosphère. Bon. Donc, d'une part, c'est pas un poison. Sinon, nous tous qui avons porté un masque, bon, on serait plus là. Hein, parce qu'on réinspire forcément une partie du CO2 qu'on a expiré. Donc, c'est pas le cas, heureusement. Donc, là, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et d'autre part, c'est la nourriture aussi indispensable qu'irremplaçable de la végétation. On ne peut pas la remplacer pour autre chose.
Oui,
c'est indispensable.
Oui, alors même si le CO2 est effectivement nécessaire à la vie sur Terre, est-ce qu'on ne peut pas admettre l'idée que au-delà d'un certain seuil, il puisse y en avoir un peu trop? Enfin, pour faire un parallèle, c'est comme l'eau. On est obligé de boire de l'eau. Maintenant, si je commence à boire 8 litres par jour, je ne vais pas me sentir très bien. Quoi.
Ou si vous buvez que de l'eau.
Oui, ou si je bois que de l'eau. Ouais.
Pourquoi
il faut
varier
un peu. Faut avoir un mix.
Pourquoi on trouve des combustibles fossiles au Sahara ou en Arabie Saoudite?
C'est parce qu'il y a eu de la vie avant.
Il y a eu non seulement de la vie, mais une végétation luxuriante. Et c'est le petit résidu de cette végétation qui a été enfouie qui est à l'origine des combustibles fossiles. Donc on va dire qu'on recycle la vie. C'est pas...
Il y a juste un équilibre permanent. Bon, après,
il y a eu des périodes où le CO2 a été beaucoup plus élevé dans l'atmosphère.
Ah oui, mais bien sûr.
Je crois qu'au moment où il y avait les diplodocus, c'était... c'était des chiffres qui n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, quoi. Donc,
bien sûr, bah pareil avec l'oxygène. Après, c'est sûr que, comment dire, sur une période extrêmement courte, qui est en fait juste la vie humaine sur Terre, qui est un événement, quoi, à l'échelle de toute l'histoire de la Terre, et encore plus si on focalise uniquement sur la période où en fait on a énormément d'émissions de gaz à effet de serre, c'est sûr que...
Non, énormément, non. Faut être sérieux. Si le taux de CO2 dans l'atmosphère baissait de seulement 60% aujourd'hui,
oui,
il y aurait plus de végétation sur Terre et donc plus de vie du tout. On n'est pas très loin du seuil bas.
Donc ce serait presque risqué de trop réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
C'est simplement une sécurité d'en avoir un peu plus. Faut le voir comme tel.
Mais donc, si on part de ce point de vue-là, c'est-à-dire que, en fait, bon, il y a un réchauffement climatique, l'homme y participe en partie.
Oui, tout à fait.
Mais c'est pas grave, parce que, en fait, les conséquences sont négligeables ou ne sont pas très importantes.
Il y a plus de végétation et les gens crèvent moins parce qu'il fait pas froid.
Ouais.
Donc, déjà pas mal.
N'est-ce pas?
C'est mieux que la plupart des hommes politiques, les résultats qu'ils arrivent.
Tout à fait.
C'est pas faux.
Non, franchement, on aurait mauvaise grâce de s'en plaindre.
Hein. Ouais. Oui. Mais alors, il y a un autre truc aussi qu'on entend beaucoup en ce moment, surtout avec l'immigration, c'est la possibilité d'avoir dans le futur, et d'avoir même dès aujourd'hui, des réfugiés climatiques, notamment pour les pays d'Afrique, où dans lesquels il fait déjà plutôt chaud, et dans lesquels il ferait, donc avec un réchauffement climatique, encore plus chaud.
Non, ils viennent pas pour cette région-là. L'été dernier, enfin, il y a eu des jours où la température en France était supérieure à celle du Maghreb. Ils viennent pas pour ça.
Ouais.
Non.
Non, donc
c'est pour des raisons économiques. Oui. C'est évident.
Mais c'est juste un prétexte en quelque sorte.
Il y a eu à ma connaissance une personne dans le monde qui a essayé de devant un tribunal de faire reconnaître qu'elle était réfugiée climatique. Elle a été déboutée.
Ouais.
Une personne.
Et il n'a pas été devant un bon tribunal. En France, il aurait eu...
D'une île du Pacifique. Mais alors, ça aussi, c'est... Quand on regarde la superficie des îles, soi-disant, qui vont disparaître concrètement, statistiquement, la superficie de ces îles a augmenté. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène d'accrétion des sédiments marins qui vont en fait permettre de contrebalancer la très faible hausse du niveau de la mer.
Oui, effectivement, oui. On parle beaucoup des Maldives notamment, on dit voilà, les Maldives seront sous l'eau dans X années.
Non mais pour eux c'est des raisons politiques, c'est pour avoir
des subventions.
Des subventions, c'est évident.
C'est évident, ça c'est...
Mais c'est de bonne guerre, enfin après tout.
Oui, toucher les subventions c'est quand même un sport à temps plein. Quoi.
Oui, c'est sûr.
Il y a des gens qui s'y consacrent depuis tellement longtemps.
Oui. Mais enfin, il y en a pour qui c'est quand même pas très sportif. Hein. Il suffit juste d'envoyer une lettre à la mairie ou au bon endroit et vous avez comme ça 40 millions par an.
Si vous êtes né en France, hein. Si vous êtes de citoyenneté française, c'est très difficile.
Ça dépend. Faut avoir une bonne association sur l'écologie avec énormément de transsexuels. Non, là, normalement, il y a quelque chose à faire, je pense. Je commence à être un petit peu à court de questions, mais j'ai quand même quelques questions finales, notamment par rapport à l'eau.
Oui.
On a des situations, alors notamment depuis l'été 2022, de sécheresse en France. Et alors moi, je me dis, quand même, quand j'étais gamin, on m'apprenait que l'eau, c'était un cycle, que donc on pouvait pas en manquer parce que bon voilà, à un moment donné elle s'évapore, mais enfin après ça devient un nuage qui ensuite il pleut et ensuite on retrouve de l'eau. Donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe en France, pourquoi d'un coup on a plus d'eau? Ça fait deux étés maintenant que on est en restriction sécheresse dans le sud, là où j'aime bien aller en vacances, du coup ça commence à me gaver un peu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça un petit peu, parce que
la superficie de la Terre c'est de l'eau. Oui. À 70%.
Ouais.
C'est pas l'eau qui manque sur Terre. Je rappelle que les Romains avaient construit le pont du Gard en tant qu'aqueduc pour amener de l'eau. Ils géraient l'eau. Et ce que les Romains savaient faire il y a 2000 ans, on serait plus capable de le faire maintenant.
Parce qu'il fallait calculer la pente de façon extraordinairement précise. Absolument. C'est drôlement balèze. Hein.
Non, mais ce que faisaient les Romains pour acheminer l'eau, parce qu'ils avaient évidemment, eux aussi à l'époque, ils se posaient la question de l'eau, comment l'acheminer, là où on en a besoin, on serait plus capable de le faire aujourd'hui. Non, mais il faut être sérieux quand même.
Mais cette histoire de l'eau, c'est... Il faut relire le livre de Leroy Ladurie sur le climat, qui est sur les 1000 ans de climat, c'était un bouquin qui est incroyable, parce que c'est un historien, un excellent historien, il a remonté toutes les statistiques des villages, etc. Et il a trouvé qu'il y avait eu des périodes de sécheresse en France, de 1772 à 1775, où il a quasiment pas plu, on traversait à pied toutes les rivières de France, et donc... comme ils disent en Angleterre, si vous aimez pas le temps actuel, attendez 5 minutes, ça va changer, quoi. Donc,
tout à fait.
Ça change tout le temps, ce truc. Mais et oui. Donc, chaque fois qu'on a une sécheresse, une inondation, la meilleure histoire que je connaisse, c'est en Australie, où ils ont une grosse sécheresse, et ils ont, à la demande du gouvernement, puisque ça servait plus à rien, puisqu'il allait plus jamais pleuvoir, ils ont cessé tous les travaux d'entretien des canalisations, de curetage des rivières, etc. Ils ont tout arrêté. Et puis ensuite, ils ont eu 2 ans d'inondation pas possible. Et tout ça, c'était abominable parce que personne n'avait entretenu. Donc, je crois qu'encore une fois, il faut revenir un peu aux anciens. Les anciens, quand j'étais à Méribel ou n'importe où, ils voyaient une maison qui se mottait à un endroit, ils se disaient, bon, je l'aurais pas mis là, la maison, hein. C'est parce qu'ils savaient bien que de temps en temps, une fois tous les 30 ans, il y avait une coulée de neige et que ça rissait. Donc, il y avait une espèce de sagesse autrefois, les gens, c'est les 7 années de vache maigre et les 7 années de vache grasse, quoi, c'est dans la Bible. Mais on a l'impression aujourd'hui que dès que c'est pas le monde n'est pas exactement comme il était la veille, tout le monde pousse des cris en disant, mais c'est horrible ce qui nous arrive. Mais non, c'est pas horrible, c'est juste normal.
Non, c'est même pire que ça. C'est qu'on a trouvé un bouc émissaire, qui s'appelle CO2, hein. On a trouvé un bouc émissaire qui permet de dédouaner un certain nombre de politiques de tout ce qu'il faudrait faire pour justement éviter.
C'est une thèse intéressante, ça.
Oui.
Vous retournez à René Girard, c'est bien ça. Mais c'est pas bête, mais en fait c'est ça, c'est le politique de base, c'est quand même de trouver le bouc émissaire de service. Quoi.
Ben voilà. Ils l'ont trouvé, donc ils se sentent tout à fait dédouanés. Ah mais non, mais c'est la faute du réchauffement climatique, point. Donc de toute façon, c'est ça qu'il faut faire, et puis le reste, il n'y a plus besoin de le faire. Enfin, je veux dire, des sécheresses, des inondations, il y en a toujours eu, il y en aura toujours.
Mmh. Alors justement, je trouve ça intéressant, il y a un glissement sémantique depuis quelques années qui s'opère surtout à l'extrême gauche, mais qui est en train de contaminer l'ensemble de la scène politique.
Hélas.
C'est l'idée que aujourd'hui ils en sont plus seulement au CO2, aux émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si vous leur présentez l'hypothèse dans laquelle, par exemple, via une énergie nucléaire extrêmement décarbonée, en fait, ils sont absolument contre. C'est-à-dire que si vous avez une énergie possiblement infinie qui n'émet absolument aucun CO2, aujourd'hui, ils sont quand même contre. C'est quand même hallucinant. Comment vous expliquez ça ?
Faut leur poser la question.
Faut leur poser beaucoup de questions. La prochaine fois, je recevrai Jean-Marc Jancovici ici.
Voilà. Je sais pas qu'ils sont contre, c'est que je crois que le vrai problème, c'est que 90% de ces gars-là n'ont pas fait l'étude scientifique, ne comprennent pas la science, ils y comprennent rien, et c'est pour eux une façon de condamner une civilisation à laquelle ils comprennent rien. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas comment, ne connaissent plus rien en physique, ne connaissent plus rien en chimie, ne connaissent plus rien en mécanique des fluides, ne connaissent rien. Et donc, ils sont devant un truc qui est incompréhensible. Et ça les rend fous.
C'est vrai, il y en a beaucoup, mais par exemple, même Jean-Marc Jancovici est d'accord avec cette idée qu'il ne faut pas, il faut absolument pas trouver d'énergie infinie. Ce serait terrible. Et pourtant, c'est comme une tronche, quoi, le gars.
Bon, il a fait Polytechnique, donc c'est déjà pas mal. Mais...
Si on réussit à utiliser l'hydrogène, non pas pour faire des voitures, hein, c'est pas ça là, l'hydrogène pour faire la fusion thermonucléaire contrôlée.
Mais c'est fini ça.
Il
n'y a plus de problème.
Ben voilà.
On n'aura plus jamais de problème d'énergie.
Absolument. Nous sommes d'accord.
Non, mais ça, il y a plein d'Américains
qui travaillent. Alors, il y a encore de la recherche à faire, c'est pas.
Oui,
mais il y a deux voies qui progressent, l'une et l'autre. La voie avec ce qu'on appelle les tokamaks, c'est le projet ITER. Et puis, la voie avec les lasers mégajoules, et les deux voies progressent. Bon, il y a encore de la recherche à faire, mais...
On a stabilisé quelque chose il y a quelques mois.
Oui, oui, bien sûr.
Ça produit pendant un quart de seconde un peu plus d'énergie.
Voilà, c'est le laser mégajoule américain. Oui. Ouais. Non, non, mais il y a des moyens d'arriver, effectivement. Et alors là, l'hydrogène, vu les océans qu'on a autour de nous, c'est pas ce qui manque sur Terre. Hein. Donc, il n'y a pas de difficulté. Il y a encore de la recherche à faire. Mais produire une énergie, et en plus de ça, qui ne serait pas dangereuse, j'insiste. Parce que autant on peut dire qu'effectivement, dans une centrale nucléaire, si on ne prend pas des précautions, il peut y avoir un accident. Mais là, il suffit de couper le courant. Tout s'arrête. Très facile. Donc, ce n'est pas dangereux, et ça serait effectivement une énergie. Alors, d'ici là, ce qui est raisonnable, c'est d'avoir un mix énergétique, comme on dit, avec une part de fossiles, là où c'est toujours utile. On voit mal les engins de chantier ou les moissonneuses batteuses fonctionner à l'électricité. Il faut être sérieux quand même.
Soyons plus nets encore. Oui. On voit mal les tanks en cas de guerre.
Voilà.
J'ai vu que les Américains voulaient faire des tanks électriques et oui, ça m'a fait rigoler.
Il faut être sérieux quand même. Donc, de toute façon, on aura encore besoin des fossiles pendant encore longtemps. Puis progressivement, de toute façon, on arrivera à avoir... diversifier nos sources d'énergie pour l'avenir. Oui,
oui. Et puis même en utilisant des ressources fossiles, effectivement, vous le soulignez tout à l'heure avec la Chine, on peut toujours aussi optimiser les manières de les utiliser en faisant moins de déchets, en polluant moins. Après, ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Pareil, j'ai vu qu'il y avait de la recherche pour faire des batteries au sodium. Bon, je sais pas où ça en est.
C'est pas si performant que le lithium.
C'est pas si performant.
Non.
Bon, après, je suis pas du tout scientifique, donc j'ai du mal à juger ce genre de projet. Pareil sur l'eau, on a toute l'industrie du dessalement qui est en pleine expansion et qui pollue beaucoup moins qu'avant, et qui est beaucoup moins cher aussi.
Bien sûr.
C'est ce qu'utilise Israël, etc.
Sont en train de monter. Mais pour revenir à la question pourquoi, qu'il faudrait poser à ces gens-là, c'est qu'il faut jamais oublier qu'il y a des gens qui sont intéressés au bien-être et il y a des autres qui sont intéressés au pouvoir. Et ceux qui sont intéressés au pouvoir, il n'y a quand même jamais mieux qu'une société de pénurie. Parce que s'il y a une société de pénurie, c'est ceux qui sont au pouvoir qui distribuent les tickets de rationnement. Et donc c'est quand même une grande satisfaction pour eux.
Pénurie rebaptisée sobriété.
Oui, bien entendu, rebaptisée. Donc il ne faut pas oublier que...
C'est plus chic, hein,
c'est plus sobriété. Chic, sobriété. Et donc pour moi, il y a quand même toute une série de gens qui ne souhaitent pas que les autres soient plus heureux et plus libres. Ils souhaitent... diriger ces gens qui, dans le fond, ne comprennent pas grand-chose. Donc, quand je vois un type qui, ayant fait les meilleures études, m'explique qu'on a besoin d'une société de pénurie et que c'est lui qui distribuera les tickets de rationnement, je me dis, j'ai déjà vu dans ma carrière, ça arrive. C'est pas un Saint-Jean d'Assise, quoi. C'est pas un
Saint-François
d'Assise. Hein. C'est pas...
C'était hier, sa fête.
Oui, Saint-François, c'est pour ça que je pensais à lui. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que ceux qui arrivent au pouvoir, ceux qui demandent d'aller au pouvoir, c'est quand même des mecs que souvent leur maman n'a pas assez aimé quand ils étaient petits. Ils ne sont pas toujours très bien nés. Très bien,
peut-être de ça, je ne sais pas.
Pour faire de la politique, aujourd'hui, il faut quand même être un peu malade.
À force d'avoir échoué sur absolument tout, peut-être qu'ils ont enfin trouvé un truc sur lequel ils peuvent être tout à fait performants. Enfin, la sobriété énergétique n'a rien à faire.
Distribuer les tickets de rationnement, ça fait longtemps qu'ils sont. Ils savaient très bien qu'ils le font.
C'est pas nouveau.
Ça remonte à la nuit des temps, ça. Et ce que disait ce brave Milton Friedman, que j'aimais beaucoup. Il disait, quand les fonctionnaires prennent le contrôle d'une activité économique, la première des choses qu'il faut acheter, c'est le fonctionnaire.
C'est pas faux.
C'est ce qu'on voit tous les jours en France.
J'arrive à court de questions. En plus de ça, vous avez un rendez-vous juste après. Donc, on va terminer cette émission là-dessus. Je renvoie évidemment nos auditeurs vers votre livre, hein, qui est donc disponible aux très bonnes éditions L'Artilleur, hein, qu'on connaît bien. Vraiment, je les redirige vers ce bouquin parce que j'ai trouvé intéressant. Voilà, il y a beaucoup d'informations. Alors, j'ai pas été forcément d'accord avec tout. Maintenant, j'ai pas du tout le recul scientifique, moi, pour vraiment juger de mon point de vue. Mais après tout, c'est quand même bien d'avoir ces réflexions-là, d'avoir ces éléments-là. Voilà, c'est toujours un moyen de se cultiver quand même sur la question. Évidemment, je vous remercie pour votre présence à l'Institut des Libertés.
C'était sympa de venir.
Plaisir partagé.
Donc, je remercie, comme d'habitude, hein, les auditeurs pour leur attention. Normalement, cette émission sera disponible en podcast, hein, sur Deezer et sur Spotify. Et encore une fois, je redirige vers votre livre, Le déraisonnement climatique, François Gervais, aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup. Merci à vous.
Je vous remercie de votre invitation.
Merci d'être venu.